Waouh, Dieu est bon. Donc là, il dit qu'un jour dans ta présence vaut mieux que mille ailleurs. Et donc les quelques moments que nous venons de vivre là, dans la présence de Dieu, on peut apporter ça dans notre semaine. Ça vaut, on a reçu un capital de l'amour, de la présence de Dieu. Et donc là, c'est pas juste un petit moment religieux de devoir ou on fait, mais là, on a reçu un capital pour affronter la semaine et même affronter, si j'ose dire, l'éternité. Quand on a cette beauté de Christ en nous, waouh, c'est pas juste un devoir religieux, c'est une énergie de vie qui nous guide et qui nous garde. Donc c'est merveilleux. C'est merveilleux. Et merci Michel pour la prière, poème, merci Thérèse pour le chant, magnifique, magnifique, magnifique. Dieu est bon, Dieu est bon. Ça va? Il entend rien là, il dit. Ça va, mais... Attends, ça va venir, ça va venir. Ça va, Michel? Voilà, ça va, très bien, très bien. Et vous savez, il y a longtemps... Je voyageais beaucoup. Et je voyageais chez les Pygmées, en forêt équatoriale. J'étais en Chine. J'étais chez les musulmans, en Algérie, au Maroc, en Indonésie, en Mauritanie. Et j'étais chez les hindous, en Inde. J'étais à Dehradun, j'étais à Agra, j'étais à Lucknow. J'ai visité le Taj Mahal, tous ces trucs-là. Et donc, quelle grâce. Et j'étais en France, j'étais en Bretagne, j'étais dans le sud de la France. Et dernièrement, j'étais en vacances en Bretagne. Et bon, en vacances, on est allé garder nos petits-enfants. Et j'ai rencontré une dame catholique sur un banc qui m'a évangélisé. C'était merveilleux d'être évangélisé. Elle a dit, oh, je m'assis sur ce banc. Et bon, elle explosait de vie. Et, bon, et donc, ce que je veux dire, c'est que j'ai vu la diversité de Dieu dans ma vie. J'ai vu la diversité. Je peux vous dire qu'un pygmée qui danse autour du feu pour louer Jésus, qui n'est pas toujours très habillé, mais qui est magnifique aussi, tu vois, il y a les étoiles sans lumière naturelle que les étincelles et les flammes et l'enthousiasme. Tu es mon Dieu. Il dansait, c'est dans la première amour, il venait de découvrir Jésus avec tous les miracles de guérison qu'ils accueillaient comme des enfants. Et après j'étais en Chine et c'est très différent. C'est très différent. Et même j'ai vu les hindous, des millions et des millions de personnes dans des grandes villes, dans les grandes villes où on entend, on n'a pas l'évangile, mais il y a les gens qui tâtonnent, qui veulent arriver au moksha, la libération. Ils cherchent une libération et ils cherchent à faire des œuvres justes aussi. Ils essaient. Et des musulmans qui t'accueillent pour manger un bon couscous chez eux et qui t'aiment par leur hospitalité et qui cherchent, qui t'attendent, qui vont à la prière, qui se plient, qui se prosternent. Et donc dans tout cela, je dis, mais Dieu, tu aimes la diversité de l'humanité. Et même nous, on est tous des constructions sociales différentes, notre éducation. Waouh, quand je pense comment j'ai été construit dans ma jeunesse, dans des idées, j'étais plutôt communiste, hein, j'étais plutôt dans la rébellion, l'église, les riches, allez, paf. Et après, j'étais ouvrier, après j'ai rencontré plus tard les gens aisés, je ne les aimais pas, je ne sais pas pourquoi, mais j'étais forgé comme ça. Et il y a une diversité de construction sociale dans nos vies. Une diversité. Et on peut dire, peut-être, avec tout ça, il y a beaucoup de langues. Hein. On dit qu'il y avait un philosophe, Wittgenstein, il disait, mon langage, c'est mon monde, parce que nous construisons aussi notre monde par nos paroles. Donc, parce qu'il y a une diversité de langues, il y a tellement de constructions, tellement d'idéologies, tellement de philosophies, tellement de religions différentes. Et moi, je veux vous dire que Dieu aime ça. Dieu aime la diversité. Dieu, il est multicolore. Dieu, il a plusieurs tailles. Il y a plusieurs expressions, il y a plusieurs générations. Et Dieu aime la diversité. Donc, vous allez dire, oh Robert, qu'est-ce que tu es en train de dire? Est-ce que tu es en train de dire qu'il y a plusieurs chemins vers le salut? Hein? Est-ce qu'il y a plusieurs chemins vers le salut? Il n'y a que la sainte évangile qu'on prêche à Wavrin, que tout le monde doit accepter, doit faire comme nous, tous les dimanches. Non, 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 non. Mais est-ce qu'il y a plusieurs chemins, donc? Et les musulmans, et les hindous, et tout ça. Et ça, c'était mon défi. C'est toujours mon défi. Alors là, si on veut trouver une solution, je ne vais pas débattre philosophiquement, mais je vais aller dans la Bible. Et Jésus un jour, Jésus un jour, ils ont dit, il était avec ses disciples. Il y avait un disciple, Thomas. Et on aime Thomas, parce que Thomas, il pose des questions difficiles. Lui, il n'est pas, oh, oui, oui, oui. Il dit, oh, mais quand même. Mais quand même. Et ça, et ça. Et aussi, il n'est pas juste super, oh, j'ai la foi, j'ai la foi. On dit qu'il doute. Mais je ne pense pas qu'il doute. Je pense que quelquefois, ce n'est pas juste de dire qu'il doute. Je pense que lui, il questionne plutôt que douter. Il questionne. Et donc, j'aime bien Thomas. Et heureusement qu'il y avait Thomas. Parce que Thomas a posé une question, Jésus a libéré une réponse merveilleuse. Imagine, si Thomas n'avait pas posé la question, Jésus, il ne peut pas parler, il ne peut pas répondre. Mais parce qu'il y avait des disciples qui posaient des questions, c'est bien de poser des questions. Même dans vos prières, pose des questions. Il ne faut pas être comme dans une secte. Non, il faut poser des questions. Mais pourquoi ça m'est arrivé? Mais pourquoi? Et moi, je ne comprends pas. Dieu, pose des questions à Jésus. Et quand tu poses des questions à Jésus, waouh, tu as des réponses magnifiques. Magnifiques, magnifiques, magnifiques. Et donc Thomas, il dit, mais bon, moi je ne sais pas où tu vas, Jésus, et comment est-ce que je peux connaître mon chemin? Waouh, quelle belle question. Comment saurions-nous le chemin? Bon, ça, c'est une question existentielle. Qu'est-ce que c'est mon chemin dans la vie? Est-ce que je dois être docteur, dentiste? Est-ce que je dois être. Bon, ça, c'est un niveau. Mais qu'est-ce que c'est le sens de ma vie? Le chemin, c'est le sens de ta vie. Je vais être guidé par quel chemin? Et après, on peut dire c'est le chemin de l'étude, c'est le chemin de ça, c'est le chemin de la religion. Il y a beaucoup de chemins. Mais Jésus, il a dit, Thomas, Jésus lui dit, ah, merci Thomas, tu m'as posé la bonne question. Et Jésus dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Waouh. Le chemin est dans un sens. La vérité, ce n'est pas une vérité de discussion, c'est une vérité, ce n'est pas la vérité des philosophes, c'est la vérité d'une relation. C'est une vérité qui est incarnée. Qu'est-ce que c'est la vérité? C'est l'étreinte avec Jésus. Ce que nous avons vécu ce matin dans la louange, c'est la vérité. Ce n'est pas une théorie. Est-ce que c'est vrai? Non, mais c'est une expérience de vérité. C'est parce que Jésus était là. Il est vérité. Et ce n'est pas une vérité. Ah, toi, tu as raison. Toi, il n'a pas raison. Non, c'est plus que ça. C'est une relation. C'est d'être soudé à la vérité. Et donc, Jésus dit, je suis le chemin, je suis le sang, je suis la vérité. Et je suis la vie. Je suis la vie. Et ça, pour moi, c'est l'argument essentiel. Donc, est-ce que tu as la vie? Oui, je suis la vie biologique. Je me bouche, je respire. Mais est-ce que tu as la vie? Est-ce que tu as cette vie spirituelle? Est-ce que tu as cette vie dans ton âme? Et aussi, est-ce que tu n'as pas juste la vie biologique dans ton corps, mais est-ce que tu as la vie de Jésus aussi dans ton corps? Parce que la vie de Jésus dans ton corps, c'est aussi la guérison. C'est aussi la résistance. C'est aussi un ADN qui n'est pas dicté uniquement par tes ancêtres, mais qui est dicté par la présence de Jésus-Christ en toi. Et Jésus nous donne un ADN surnaturel. Et il transforme même nos muscles et tout. Et donc, c'est pour ça qu'il y avait des guérisons. Parce que tout d'un coup, Jésus touchait quelqu'un. Bouh! Et toute cette année, il a reconstruit. Même quelqu'un qui n'avait jamais marché, même un gars qui n'avait jamais vu, il y a une reconstruction instantanée de toute l'ADN, de tout ce qui a été faussé. Et donc, il est le chemin, la vérité, et la vie. Waouh! Et donc, au cœur de toute cette diversité, il y a une chose qui est unique, et c'est la personne de Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Et après, il dit cette phrase, « Nul ne vient au Père que par moi. » Ah, on dit, « Mais Jésus, t'es très étroit, ouais, ouais, ouais. » Que par moi, nul ne vient au Père. Nul peut vraiment connaître Dieu que par moi, que par ma vie, que par ce don de vie que je vous donne. Nul ne vient au Père que par moi. Et donc on peut dire, oh, je peux aller vers Dieu par l'église catholique ou par l'église protestante, et surtout par l'église évangélique protestante de Wavre. On est le chemin vers le salut. Que par les prédications de Robert Rive. Non. Que par moi. Ah, uniquement par la voie de l'islam, par la voie de l'hindouisme, par la voie du christianisme. Oui, mais si c'est juste le christianisme qui est une religion, non. Mais si c'est par Jésus-Christ, la personne que tu connais, oui. Et Jésus, il est cette semence qui peut entrer dans la terre indienne, chinoise, dans la terre islamique même, et produire quelque chose de christique. Moi, j'ai vu en Éthiopie, les Afars, c'est un peuple farouchement islamique, hein, vraiment jamais d'église et tout ça. Mais eux, ils ont reçu, il y a une certaine groupe, pas tout le monde, ils ont reçu la semence de Jésus, et ils avaient les mosquées pour Jésus. Les mosquées pour Jésus qui baptisaient les gens, ils faisaient la Sainte Cène, mais ils se disaient musulmans. Bon, ça m'est égal. Ils se disaient musulmans. Parce que bon, dans leur culture, tout, ah, moi je suis chrétien. Tu vois, mais il faut prier qu'il y ait des mosquées pour Jésus. Parce que tu sais, Dieu, il ne va pas raser toutes les mosquées en Égypte, toutes les mosquées en Indonésie. Il va revenir, oh, il n'y a que l'église évangélique avec une grande croix élevée. Non. Il est une semence, il est cette chose-là qui va imprégner toutes les cultures. Quand je vois le temps, ça a pris pour nous 300 ans, après Jésus, 300 ans pour avoir la notion de Trinité. Là, il y a eu toutes les discussions. 300 ans. Et donc ça, c'était notre construction de l'Église dans notre Occident. Et c'est beau. Mais Dieu, il est en train de construire son identité dans toutes les cultures. Et donc, il n'y a pas plusieurs chemins. Il y a une semence. Il y a une relation. Et nul ne vient au Père que par moi. Amen. Et après, je vais encore mettre une couche. Parce que, pas une couche de bébé, mais une couche de parole. Et donc, acte 4, 12. Et c'est la première prédication de l'Évangile. Et donc, c'est important, hein, quand on a les premières prédications d'Évangile. Parce que c'est là où il était vraiment inspiré. Tu vois, il est... Bon, qu'est-ce que je vais dire? Tu sais, tu imagines, depuis Pierre, combien de prédications on a eu dans le monde, depuis 2000 ans. Même aujourd'hui, dans le monde, combien de prédications? Des millions et des millions et des millions. Mais ici, c'est la première prédication. Mais on l'a enregistré. Et on peut écouter, c'est assez simple. Hein? Il parle de Jésus, la première prédication. Mais il dit quelque chose de très important, parce qu'il est devant les Juifs. Il est devant un monde de diversité. Il y a les Grecs qui croyaient en leur dieu Zeus, il y a les Romains qui avaient Mars, le dieu de la guerre, et tout ça. Il y avait les Juifs, mais ils n'avaient pas Jésus, les Juifs. Ils avaient Yahweh, ils avaient le grand Dieu, ils étaient sur le bon chemin. Alors les gens se posaient des questions. Et tout d'un coup, lui, Pierre, il dit ceci. C'est Actes 4, 12. Il dit, le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes et les femmes par lequel nous devions être sauvés. Waouh, qu'est-ce qu'on peut faire après ça? Ah, tu te trompes, Pierre, quand même. Maintenant, on est dans une autre construction de vérité. Tu vois, il faut accueillir tout le monde. D'accord, je suis d'accord pour la diversité de culture, la diversité de construction. Mais il y a un seul nom qui sauve, et c'est le nom de Jésus-Christ. Mais pourquoi Pierre dit ça? C'est évident. Combien de personnes innocentes qui n'ont jamais péché sont mortes sur une croix? Combien qui n'ont jamais péché et qui sont conçus miraculeusement dans le sein de la Vierge Marie, nés de Dieu, qui sont cette communication de Dieu? Parce que Dieu est communication. Au milieu de communication, qu'est-ce qu'on a? On a le mot un, communication. Un. Et donc Dieu est commun, il est un, on est monothéiste. Mais la communication, on a besoin d'un vis-à-vis. On a besoin de, comment dire, un amant et un bien-aimé, et l'amour. Et donc ça, c'est l'ultime communication. L'amour est communication. Et donc Dieu est amour qui communique en lui. Et c'est pour ça qu'on a cette notion de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais un seul Dieu, trinitaire. Et ce nom de Jésus, ce nom du Fils est le seul nom donné parce que c'est Dieu incarné qui entre dans nos souffrances. Tu sais, tous les autres dieux du monde, ils sont des supermen, ils sont des super-héros. Ils ont le glaive, ils ont là, paf, paf, paf. Et là, pour les musulmans, Dieu, il ne faut pas, il est là, il faut pas, il est là, il règne, il est sur son trône. Mais ils s'en foutent de tes maladies. Pardon. Mais il est juste là. Et un Dieu qui est là, tellement élevé, tellement tout-puissant, mais qui n'entre pas dans la peine et la souffrance de sa création, mais il n'est pas parfait. Parce qu'il n'est pas parfait dans son amour. Il est parfait dans son indifférence. Et moi, je ne sers pas un Dieu indifférent, tout puissant dans son indifférence, mais je sers un Dieu qui est devenu un homme, qui est entré dans notre souffrance, qui est entré, qui est devenu celui qui est le plus grand, il est devenu le plus petit. Mon Dieu est devenu une petite cellule dans le sein de Marie, qui a subi la croissance de 9 mois. Je ne sais pas si les anges chantaient dans le sein de Marie avec Jésus, qui est une petite bébé qui grandit. Mais vous imaginez, c'est Dieu là, c'est Dieu incarné, la parole qui, comme on a chanté, ça m'a fait pleurer en chantant ça, les mains qui tenaient le monde, les mains qui ont dit paf, qui ont créé les galaxies. Ces mains-là se sont livrées au clou de la colère. Mais qui est un Dieu comme ça, quand même? Quand même, pour inventer ça, quel homme aurait pu croire inventer cette histoire? Et même si nous, avec toute la culture qu'on a héritée d'animisme, même le Dieu, est-ce qu'on aurait pu penser à ça, un Dieu? Le terme théologique, c'est « kénos ». C'est de se dépouiller de toute sa grandeur pour devenir petit. Kénos. Kénos. Et c'est pour ça que ce nom sauve. Parce qu'il y a un nom, c'est pas juste un nom magique, mais c'est une personne qui a été clouée sur une croix et qui a versé un sang divin qui était réel, qui efface le péché du monde. Et comme on dit si bien dans les messes catholiques, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il ne faut pas mépriser la vérité non plus. Et ça, c'est une phrase qui qui a de l'or d'un côté, parce que c'est une vérité, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça veut dire ça ôte mon péché. Et il y a un seul nom. Il y a un seul, on peut dire, au lieu de dire agneau de Dieu, on peut dire le sacrifice de Dieu. Dieu s'est sacrifié lui-même. Il est entré dans notre misère pour nous pardonner et pour nous élever. Et il y avait les Grecs orthodoxes qui disaient que Dieu s'est fait homme pour que l'homme puisse atteindre le niveau de Dieu. Dieu s'est fait homme pour que l'homme puisse être Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on est divinisé comme Dieu, mais ça veut dire qu'on retrouve l'empreinte originelle que Dieu a mise sur l'humanité quand il a soufflé dans leurs narines et il a dit « Je te crée à mon image. » Wow. Ah, et ça, c'est l'image de l'humanité en lui, Christ. Donc chacun de nous, homme, femme, enfant, on est fait à l'image de Dieu. Et donc quand Christ est mort, c'était pour nous rétablir dans cette image, parce qu'on était séparés par le péché. On était séparés. Et Dieu nous a rétablis. Mais mieux que ça, il a pris tout cela et il a dit, Père, pardonne-leur. Le pardon était là dans ses paroles. Et après, il a dit, tout est accompli. Et il a écrasé la tête de Satan. Ça veut dire, il a détruit le mal. Et le mal est partout, on le regarde, mais c'est un mal vaincu. C'est un mal vaincu. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres de Satan. Amen. Donc sur cette croix, il y a notre victoire aussi contre le mal. Dieu rétablit le paradis avant la chute. Et après, il est ressuscité. Parce que la mort ne pouvait pas retenir l'homme Jésus. Jésus était ressuscité comme un homme. Il n'a pas utilisé une surpuissance. Il était ressuscité parce qu'il n'avait pas péché. Et la mort ne pouvait pas le retenir. Et donc là, il a montré que chacun de nous, à cause du pardon, on va être ressuscité. Et on ne va pas... Si Dieu a pu créer... Voilà, même là, je viens d'accueillir un petit-fils, mais ce petit-fils a commencé comme une petite morceau de poussière. Hein, il était là et Dieu a façonné un homme qui va grandir. Et donc Dieu va ramasser toutes nos miettes. Parce que c'est vrai, tu as dit, oh mais les gens, ils sont poussière dans leur tombeau. Mais voilà, Dieu, dans un instant, il va te refaçonner tout ça pour donner des corps glorieux. Parce qu'il a vaincu la mort. Et est-ce qu'il y a un autre nom qui a vaincu la mort? Ça, c'est ma question. Est-ce qu'il y a un autre nom comme ça qui a vaincu la mort? Donc, c'est pour ça que c'est le seul nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Hein? Chemin, vérité, vie. Et donc là, ce nom de Jésus peut s'incarner dans beaucoup de cultures. Et donc là, je vais terminer là avec... On va voyager dans le temps, on va reculer 800 ans avant Jésus. 800 ans avant Jésus. Tu sais, c'est une culture juive, mais aussi avec les Syriens, avec toutes sortes de tribus, les Babyloniens. Et ce qu'ils ont en commun, que c'est la guerre tout le temps. C'est des conflits. Et on arrive, on va trouver un soldat qui s'appelle, comment on dit, Naaman. Naaman, c'est la prononciation hébraïque qui est un peu compliquée. Naaman, hein? Et Naaman, c'est un soldat syrien. On le retrouve dans 2 Rois 5, et je vais lire. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son seigneur et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait accordé le salut aux Syriens. Hein, ça veut dire la victoire. Mais cet homme important, hein, on dirait peut-être comme un grand musulman aujourd'hui, un cheikh, hein, voilà, il est là, il est syrien, et tout ça, était lépreux. Hein, il avait un problème. Et donc, on dit lépreux, mais tu sais, on a découvert le lèpre en 1800. Donc on ne peut pas dire que c'était vraiment le lèpre.
c'était sarat en hébreu. Ça veut dire une vraie maladie de peau. Une vraie, ce serait quelque chose. Mais c'était l'horreur. Parce que c'était visible, et ça, dans toutes les cultures, pas juste la culture juive, ça te rendait impur. Ça te mettait dans une zone d'exclusion. Non, les gens, ils ne voulaient pas avoir ça. Et pour nous, les chrétiens, quand nous voyons le lèpre dans l'Ancien Testament, c'est l'image du péché. C'est l'image de la maladie de la chair. C'est là où tu vis que par ton corps. Et tu n'as aucune vie spirituelle, tu n'as aucune vie de salut. C'est juste cette vie de péché. Et donc, c'est une image du péché pour nous. Et même pour les Juifs, c'était l'image d'être exclu, d'être séparé, et surtout séparé de la présence de Dieu. Et donc, on peut dire qu'il est mal dans sa peau, hein, Paul. Si on est mal dans sa peau avec le péché aussi, quelquefois on est mal dans sa peau. Et donc là, tout d'un coup, il dit, mais que faire? Et j'imagine quelquefois, même quand je lis ça, j'ai dit, mais ce gars-là, peut-être, il pourrait présenter les musulmans d'aujourd'hui. Ou il pourrait présenter les gens qui viennent de l'autre côté de la montagne. Et les gens qui disent, voilà, je n'ai pas votre culture, j'ai pas une culture évangélique, protestante, je n'ai pas une culture comme ça. Mais quand même, je suis mal dans ma peau. Qu'est-ce que je dois faire avec ma vie? Et j'ai ma religion, mais j'ai mes techniques et tout ça, mais voilà, j'ai toujours ce problème dans ma peau là. Et donc c'est souvent ça, quelquefois c'est pas juste d'avoir les théories, mais qu'est-ce qui marche pour toi? Qu'est-ce qui marche? Est-ce que ton Dieu marche? Est-ce que tu es moins mal dans ta peau avec ton Dieu? Et donc là c'est super parce que il y a une petite fille, en verset 2, en chapitre 5, il dit, il y avait une petite jeune fille qui était là comme captive, comme une esclave. Et elle était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, celui-ci le débarrasserait de sa lèpre. » Wow, de sa lèpre, la lèpre. Oh, j'ai dit le lèpre avant, la lèpre. Pardon, la lèpre. Et je vais, il sera débarrassé de sa lèpre. Incroyable. Mais moi, je loue Dieu pour cette petite fille. Et nous, est-ce que nous, on peut être une petite fille aujourd'hui qui croit à la puissance de Jésus, qui a plus qu'un prophète? Il y a quelqu'un qui peut te débarrasser de ta maladie. Et elle a osé le dire. Je dis, mais bravo. On n'a pas besoin d'être un grand héros, on a besoin d'être comme une petite fille qui ouvre sa bouche et dit, voilà, va voir cela. Et après, normalement, il était libre. Mais lui, tout de suite, oui, je vais aller voir le roi et tout ça. Et il y a toute une histoire, mais en verset 9, Naaman vint avec ses chevaux et son char et s'arrêta à la porte de la maison d'Élysée. Bon, c'est comme s'il va à l'église pour la première fois, je sais pas, mais la maison d'Élysée, là, le prophète, tout ça. Et Élysée envoie un messager pour lui dire. Et donc, il ne s'est même pas présenté en personne. Et il dit, va te laver 7 fois dans le Jourdain, et ta chair redeviendra saine, et tu seras pur. Oh, moi, j'aime bien ça. Quel bon conseil. Va te laver 7 fois. Bon, c'est 7 fois, c'est la perfection. Et aussi 7 en hébreu, c'est Sheba, c'est un serment. Il y a aussi une alliance. Va faire une alliance quelque part et lave-toi parfaitement dans un fleuve qui s'appelle le Jourdain. Et ça, c'était le fleuve d'Israël, le Jourdain. Et ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Va prendre un bain. Va prendre un bain. Quelquefois, je ne sais pas qui me dit ça, quelquefois, peut-être ma femme. Allez, Rob, va prendre un bain. Et donc, c'est un bon conseil, mais d'avoir un bain spirituel, un bain de régénération, un bain de renaissance. Et tout en gardant ton droit dans l'histoire de Naaman, on va aller vers la fin de la Bible en Tite. Hein, c'est juste avant Hébreu, hein, l'évangile de Tite. Et Tite 3, Il y a un verset 3, 4, 5, et il parle de Jésus. Hein. Il dit, mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, hein, l'amour de Dieu manifesté, il nous a sauvés, amen, non parce que nous aurions fait des œuvres de la justice, hein, parce que j'étais plus beau que l'autre, parce que j'avais fait plus de prières que l'autre, non, mais en vertu de sa propre miséricorde, parce que Dieu, sa propre compassion nous sauve, par le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit. Ah, régénération, renouveau. C'est merveilleux. C'est ça qu'il nous faut, pas juste une religion, mais une régénération. Ça veut dire naître de nouveau, un regenèse. De renaître et d'être renouvelé.
Oh, je suis tellement fidèle.
Non, mais soyez renouvelé. Chaque matin, tu sais, les fleurs, les tournesols, ils se tournent vers un renouveau avec le soleil chaque jour. Ils ne se contentent pas juste d'avoir vu le soleil une fois. Mais chaque jour, c'est le renouveau et ce bain de régénération et le renouveau du Saint-Esprit. Il a répandu sur nous avec abondance, pas juste un petit peu, avec abondance, cette fois parfait, avec abondance, par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Donc ce que Naaman a fait, c'était ce bain de régénération prophétique, hein, déjà prévu, et de renouveau. Et donc, c'est ce qu'Élisée dit. Il dit, allez, va te laver dans le Jourdain. Mais, qu'est-ce qui se passe? Verset 11. Naaman fut indigné.
Oh, oh, il n'y a que le Jourdain. Il n'y a que le nom de Jésus. Mais, oh, quelle étroitesse.
Vous connaissez ça? Il fut indigné. Et s'en alla en disant, voici ce que je me disais. Il va me demander quelque chose de difficile. Et après verset 12, les fleuves de Damas, de Lamana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Hein, c'est, les gens se privent de salut avec ça. Ils disent, mais il n'y a pas que Jésus, il y a Mohammed, il y a Krishna, il y a le Nouvel Âge, il y a l'ange Saint-Michel, il y a le machin, il y a là, il y a la pierre blanche magique qui d'accord. Vas-y, lavez-vous, vous n'aurez pas le bain de la régénération. Et donc, mais Naaman, là, il a un moment de lutte spirituelle. C'est son orgueil, c'est sa culture. Et je comprends. Et il dit, mais il y a d'autres chemins, il y a d'autres fleuves, il y a le Damas, il y a l'Amana. Ils valent mieux que toutes les eaux d'Israël. Tu sais, le salut n'est pas une concurrence de religion. Moi, je ne fais pas la concurrence de religion. Moi, je fais la promotion de Jésus-Christ, qui s'incarne, qui peut s'incarner pour un musulman, je dirais, comme Naaman. Dans toutes les cultures, mais il faut quand même te baigner là. Là. Et après, heureusement que Naaman a de bons conseillers. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Il dit, allez, vas-y. Hein? Et finalement, Naaman décide d'obéir. Et ses serviteurs lui disent, à plus forte raison dois-tu faire ce qui t'a dit, lave-toi et sois pur. Il descendit alors et se plongea sept fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune garçon, et il fut pur. Waouh! Là, il a eu le renouveau, il est redevenu tout jeune. Sa femme en rentrant, qu'est-ce que t'as fait? Elle a eu Brad Pitt à la maison qui rentrait et tout vieux et tout d'un coup, c'est comme moi après le bain. Et donc c'est vraiment le chrétien de se plonger dans ce bain de régénération. qui coule de la croix, de renouveau, la personne de Jésus. Et sa chair, il a perdu, il a retrouvé son innocence, la chair d'un jeune garçon. Et il fut pur. Et après, il retourna vers l'homme de Dieu et il dit ceci: voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur la terre si ce n'est en Israël. Bravo, bravo, une reconnaissance, une obéissance et une reconnaissance. Et c'est ça qu'il faut. Il faut casser l'orgueil. Moi, je connais mieux que Jésus. Non, 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 on ne fait pas la guerre, ce n'est pas une concurrence, mais il y a un seul nom, et donc il faut plier le genou devant cet homme. Que tu veuilles ou non, il y a une lutte. Il y avait l'orgueil de la culture, l'orgueil de la religion. Non, mon chemin est meilleur. Mais il s'est plié le genou devant Jésus. Et après, il y avait une reconnaissance. Il a dit, voilà, je reconnais maintenant que c'est vrai. Parce qu'il a expérimenté Jésus. Il faut prier que les gens expérimentent ce renouveau en Jésus-Christ. Et après, il a dit, hey, j'ai apporté des cadeaux. Il dit, maintenant, accepte, je te prie, un cadeau de la part de ton serviteur. Et Élisée répondit, l'Éternel devant qui je me tiens est vivant. Je n'accepterai pas Naaman. Je n'accepterai pas le cadeau. Et Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Et donc, pourquoi il refuse le cadeau? Parce que le gars, il est guéri et tout ça. C'est parce que Dieu veut nous montrer par cela que le salut est par la grâce. Moi, j'aimerais bien donner toute ma vie, tout mon argent à Jésus parce qu'il m'a sauvé. Mais j'ai pas besoin. J'ai pas besoin, c'est gratuit. C'est gratuit. Et Naaman, sa vie a été changée. Tu imagines la bénédiction qu'il allait vivre. Mais rien à payer. Et c'est ça aussi, Jésus-Christ. Rien à payer. Rien à donner. Sauf ton cœur. Sauf ton obéissance. Sauf ta reconnaissance. Alors là, quel évangile nous avons. L'évangile de grâce. Et donc voilà, j'arrive à la fin. Tu sais, après, Naaman, il retourne dans son temple avec tous ses faux dieux. Mais il dit au prophète, allez, je vais garder Jésus dans mon cœur. Et il dit, quelquefois, je dois me pencher sur mon roi quand il va dans le temple d'un faux dieu. Et il dit, lui, il se plie. Il dit, moi, je suis obligé de le retenir. Et donc, moi, je me plie, mais pas dans mon cœur. Et je vois comment Dieu accepte ça aussi. Il accepte. Pas un compromis dans la personne de Jésus, mais un compromis dans la culture. Et je pense que c'est très important de comprendre ça quelquefois. Qu'il faut être d'accord de faire des compromis culturels, pas dans la non qui sauve, mais dans les expressions culturelles du corps de Christ. Les mosquées pour Jésus, par exemple. Il y a les gens, non, oh, qu'est-ce qu'il dit, c'est une hérésie. Mais moi, vous allez voir, ça monte comme ça en ce moment, en flèche. C'est un peu persécuté par les autres musulmans, mais quand même, ça va bien. Et donc, je termine. Et qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire qu'il y a un seul fleuve qui sauve. D'accord? Il y a un seul fleuve qui sauve. Il y a un seul nom qui sauve. Et c'est ce fleuve d'amour et de grâce qui coule du cœur de Jésus sur la croix. Et du cœur de Jésus sur la résurrection, et versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. Et donc je vais terminer en chantant. Vous pouvez fermer vos yeux si vous voulez. Et comme une prière pour tous ceux ce matin qui veulent se plonger cette fois dans le Jourdain. Et peut-être, même si on est déjà sauvé, peut-être je veux avoir ce bain de régénération et ce bain de renouveau. Pour me plonger de nouveau dans l'amour et la grâce qui découlent de ce nom qui sauve. Je veux renouveler mon salut. Je veux être né de nouveau, de nouveau. Oh, on peut être né de nouveau pour la première fois. Et donc, quel Dieu de grâce nous servons. Donc voilà, je vais chanter ce chant comme une prière. Torrent d'amour et de grâce, amour.
fleuve qui passe, je m'abandonne et je crois. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, Agneau de Dieu. Couvert par ta justice, j'entrerai dans le Saint.